Jsem jako můj otec a všechno, co dělám, je stejný. Jsem jeho chodící dvojník pod hvězdami. Exteriorizace, ty zvuky, co slyšíš, žádné boudící duše, ani hladovějící myši, jen ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž, ve mně do klokaní kapsy, jen ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž, ve mně do klokaní kapsy. Jsem všechny ty věci, které vlastně jsem říct ani nechtěl.
Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, interrogé les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le teint, la rage. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire. J'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qu'à laisser ma jeunesse et ma soeur sur les autoroutes toutes les Villeneuve.
La rage.
Ben, voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain.
La rage.
Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve.
La rage.
Je vous fais serment devant le juge, tu juges ceux qui m'ont jugé tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin.
La rage.
Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité.
La rage.
Arthune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse ou de la preuve.
La rage.
La rage.
La rage. Chers auditeurs de l'émission La Rage dedans. Bonjour, nous sommes de retour après 15 jours d'absence. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une lutteuse pour les personnes âgées, Malika Bellardi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je t'invite parce que nous allons parler d'EHPAD et de grand âge et d'un slogan qui a été lancé par ceux qui s'occupent du secteur, pas spécialement toi, parce que toi tu es une syndicaliste, mais ils ont lancé le slogan « Les vieux méritent mieux ». Est-ce que tu es d'accord avec ce slogan ?
Ah oui, tout à fait. Oui, effectivement, je suis syndicaliste, mais aussi je suis de métier quand même d'aide-soignante et je suis, ma spécialisation, c'est vers le grand âge. Donc oui, bien sûr que je partage complètement ce slogan et que cette situation aujourd'hui dans le secteur des EHPAD, eh ben, elle est dramatique. Et c'est pas un slogan, c'est vraiment des mesures qu'on doit apporter aujourd'hui aux personnes du grand âge. Et aussi derrière, il y a des soignants, il y a du personnel qui attendent vraiment des grandes mesures et qui pourront peut-être répondre à ce concept que vous venez
dénoncer. Alors, on va faire le constat d'abord de ce qui ne va pas. Le Monde du 26 septembre, par un article de Béatrice Jérôme, présente les assises du secteur des EHPAD. Alors, mardi 10 septembre, 18 fédérations et organisations professionnelles se sont réunies et elles ont annoncé qu'elles donnaient priorité au grand âge et elles ont lancé le fameux slogan « Les vieux méritent mieux ». Elles disent qu'elles ont en charge 40 000 personnes en France, ces 18 organisations, fédérations. Elles sont revenues sur le rapport des trois sénatrices qui a été remis le 25 septembre et qui parle d'une mission d'information qui donne comme constat la chose suivante. Les EHPAD, c'est un modèle à bout de souffle. De 2020 à 2023, on est passé de 27% d'EHPAD déficitaires à 85% d'après tes chiffres, Malika. Et les EHPAD publics qui sont rattachés à l'hôpital ont un déficit de 800 millions d'euros.
Tout à fait. Effectivement, je constate bien ce que vous venez d'annoncer. Effectivement, voilà. C'est bien les chiffres. 85% d'EHPAD publics qui sont en déficit aujourd'hui. Et les 800 millions d'euros en déficit qui ont été présentés par la Fédération hospitalière, effectivement, qui confirme bien vos dires. Oui, il y a eu les assises des EHPAD comme tous les ans, et puis et bien sûr que ces assises ont été orientées par la nouvelle loi qui porte des mesures pour bâtir la société, pour bien vieillir et l'autonomie. Mais effectivement, dans cette assemblée des assises, il y a eu quand même, on a relevé quand même la sinistralité qui se passe dans le secteur des EHPAD. Enfin, on se rend compte que cette situation est dramatique parce que derrière, il y a un enjeu, il y a des personnes âgées qui sont vulnérables et qui ont des problèmes de santé. Et il y a une grande souffrance aussi du personnel derrière aussi, c'est un fait. Et donc, qui est reconnu, mais qu'aujourd'hui, je suis assez inquiète parce que la loi promise par Emmanuel Macron en 2018 à la mutualité pour construire une grande loi grand âge, et ben elle est bien décevante par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme résultat.
Alors, dans un article du Parisien du 1er octobre avec comme signataire DL, deux initiales, j'ai pas réussi à savoir qui c'était, qui est encore sur le site du Parisien en Île-de-France. On voit une photo de Sophie Binet qui est venue visiter l'EHPAD de Suresnes qui est en grève. Parce que beaucoup d'établissements sont en grève, dont celui dans lequel je travaille. Par exemple, j'adresse mon soutien à l'EHPAD de la Cerisaie, qui est pas très loin de là où j'habite. Et donc, comment expliquer concrètement, qu'on ait une maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire pas assez de personnel, très mal payé, et des personnes âgées dont on s'occupe mal. Qu'est-ce qui coince dans ce système ?
Qu'est-ce qui se coince déjà? Bon, effectivement, je remercie beaucoup Sophie Binet, notre secrétaire générale, qui est venue nous rencontrer à l'EHPAD La Chênée à Suresnes. Déjà, mais c'est aussi pour représenter aussi tous les EHPAD au niveau national. C'était pour marquer un coup parce qu'elle nous soutient énormément sur la crise qui se passe dans ce secteur-là et est très, très observante et prête à nous aider pour se sortir de tout ce système. Le problème, c'est que dans les EHPAD, Il y a vraiment un problème, c'est vrai, d'effectifs, hein, mais derrière aussi, il y a une prise en charge, comme je vous ai expliqué, des résidents, et que ça devient défaillant, et qu'effectivement, quand on parle de maltraitance, on met en cause beaucoup de soignants, hein, parce que, bon, ben voilà, il faut bien responsabiliser quelqu'un, mais c'est vraiment de la maltraitance institutionnelle. Je vous donne juste il y a un exemple de cas où quand j'ai des aides-soignantes, je répète toujours la même chose, mais c'est la réalité, c'est pour que le public sache comprendre pourquoi il y a des dérives. Quand vous avez deux aides-soignantes pour 40 résidents en unité Alzheimer, ce qui veut dire qu'il y a une prise en charge physique dépendante, parce que, et en plus, vous savez bien que les problèmes d'Alzheimer, c'est la perte de sens. Donc, oui. Il faut gérer tout ça. Vous imaginez la charge pour le soignant. Ben, le soignant, il n'en peut plus. Il n'a plus les moyens d'avoir du sens du travail. Et le sens du travail, on perd les moyens. Et d'où on arrive à une maltraitance institutionnelle. C'est ça, aujourd'hui, qu'il faut dire. La maltraitance. Et moi, ça fait, entre parenthèses, ça me fait bien rire quand, dans cette loi, on dit détecter... Hein, tout ce qui est qui peut être maltraitant et de le dénoncer. Mais nous, moi, je dénonce la responsabilité des pouvoirs politiques qui mettent à mal tout ce secteur et qui se eux les maltraitants. Donc la détection, on le sait, c'est pas les soignants, c'est pas ces personnels qui sont autour des EHPAD, c'est la responsabilité du gouvernement où il y a des moyens insuffisants. C'est juste la communication, la loi pour les mesures de la loi, c'est de la com, c'est tout. Mais dans la réalité du terrain, c'est affreux ce qui se passe. Et encore, voilà, donc on dit pas tout. Donc tout ce personnel qui est en grève dans mon département, effectivement, et je salue mes collègues de l'EHPAD de la Chênaie qui résistent, hein, parce qu'elles sont au septième jour de grève, et je trouve que c'est vraiment très fort, parce qu'elles veulent marquer, elles lâcheront pas, et moi je les accompagnerai jusqu'au bout, jusqu'à réponse de nos revendications, et d'être bien traitées. Parce qu'on demande d'être bien traité, parce que quand le personnel, il est bien traité, eh ben les résidents aussi sont bien traités, ça va de soi. Donc voilà, la solution, c'est vraiment prendre des grandes mesures de financement pour ces personnels, pour qu'ils puissent travailler dignement et accompagner nos aînés.
Alors, comment on en arrive concrètement à avoir deux aides-soignantes pour 40 patients atteint d'Alzheimer? C'est pas possible. Bah, c'est un management toxique.
Bah, complètement. C'est les finances, hein. Bah, vous savez, justement, tiens, c'est vraiment une bonne question, parce que justement, dans cette loi, qui est mise en place, on est en expérimentation actuellement, sur 40 départements, une expérimentation de faire la fusion forfait soins, forfait dépendance, qui va permettre peut-être d'améliorer les financements et avoir plus de moyens. Bah, rien du tout. Il n'y aura rien du tout, ça ne changera rien. Ce qu'il faut, c'est déployer des moyens vraiment financiers à la hauteur des enjeux. Il ne faut pas oublier qu'en 2050, on va doubler de personnes âgées en perte d'autonomie. Et derrière, il faudra encore plus de moyens, il faudra plus de professionnels. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les mesures qui sont mises en place, elles sont insuffisantes. Et je ne le dis pas que moi, en tant que représentante syndicale et en tant que soignant, c'est toute une population qui fait constat de cette sinistralité. C'est aujourd'hui des directions, et c'est rare, hein, c'est nouveau, les directions qui se rebellent parce qu'ils sont au bout du souffle, ils n'arrivent plus à faire marcher leurs établissements, ils sont en grande difficulté. Donc c'est tout un engrenage, tout un système qui met à mal, voilà, tout le système du secteur médico-social.
C'est vrai que pour une fois, les directions sont en grève elles aussi, et elles soutiennent les grévistes. C'est une première, c'est-à-dire que ils ont compris que en cas de problème, c'est eux qui sont responsables. Et est-ce que ça vient pas du fait qu'il y a eu un avant et un après Victor Castanet, celui qui a sorti le fameux livre Les Fossoyeurs?
Mais écoutez, oui, c'est peut-être aussi un élément qui a permis, voilà, de réveiller un peu ce monde qui n'était pas au courant de cette situation. Mais effectivement, Victor Castanet, moi j'ai lu son livre, oui. Et je me suis vraiment sentie dedans, parce que ce qu'il racontait, je le vivais en tant que soignante sur le terrain. Hein, moi, la crise sanitaire en 2020, écoutez, c'était terrible, parce que quand je me suis retrouvée seule, parce que j'ai été déployée pour travailler. À ce moment-là, et je peux vous dire que je me suis retrouvée tout seule dans une unité à 7h du matin, j'étais complètement perdue, apeurée, j'étais vraiment triste, parce que je me suis dit, Ça fait un petit moment que je suis partie un peu du terrain, mais je me suis dit, mais c'est terrible parce que ce qu'elle me raconte régulièrement, et je crois, hein, mes collègues, moi je le vis, et c'est terrible, c'est affreux parce que la situation, elle peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment des grands moyens, et moi, j'insisterai et je continuerai à lutter pour qu'on puisse avancer pour les personnes âgées. Parce qu'ils se sont bottés quand même pour nous, hein. C'est eux qui ont bâti cette société, et oui. C'est eux aujourd'hui. C'est grâce à nous, c'est grâce à eux et tout ça, tout ce travail qu'ils ont donné qu'aujourd'hui on est là. Et nous, on aussi, on leur doit. Donc, j'estime que on a besoin d'avoir des grands moyens et aussi accompagner tous les professionnels des EHPAD.
Alors, donc, on est bien d'accord. On aurait dû faire une cinquième branche dépendance il y a 30 ans, au moins. Donc, ça veut dire que les politiques ont été défaillants depuis 40 ans, 30-40 ans.
Bah complètement, bah oui, surtout la cinquième branche, oui, c'est pas du tout les attentes. Normalement, la perte d'autonomie, elle doit être prise en charge par la sécurité sociale, par nos cotisations. Je vais faire un peu la parallèle par rapport au rapport du Sénat qui propose une assurance collective pour payer la dépendance. C'est pas ce qu'on veut, nous.
Et
nous,
ils veulent une journée supplémentaire de travail.
Tout à fait. Et en plus, voilà, la possibilité soit d'avoir une journée supplémentaire pour tous les salariés, ce qui veut dire une deuxième journée de solidarité qui se relèvera à 2,6 milliards, ou à la rigueur aussi une contribution auprès des retraités pour aussi permettre, voilà, aussi de contribuer à un défi, à 15 à 30, 20 milliards pour relever parce que les finances, il n'y en a pas.
C'est toujours les mêmes, c'est toujours sur les mêmes que ça retombe. Il faudrait dire aussi qu'à une époque, on a considéré que cette économie, c'était l'or gris. On a investi, on a financiarisé massivement ce secteur. Donc notre argent public d'aide aux gens qui étaient en EHPAD a servi à payer des actionnaires qui ont acquis beaucoup, c'est le cas d'Orpea, de Korian, de tout ce que vous voulez, qui ont acquis beaucoup de maisons de retraite, qui ont maltraité leur personnel, qui ont donc maltraité les résidents. Et quand on regarde la structure financière de ces EHPAD, ils ont des maisons-mères qui sont installées dans les paradis fiscaux. Donc tout cet argent est capitalisé dans les paradis fiscaux et n'a pas servi à l'économie ni à s'occuper des personnes âgées. On est bien d'accord.
Tout à fait. Bah, regardez rien que par rapport au privé lucratif dans mon département 92, le tarif d'hébergement il est en moyenne à 4 500 euros,
ouais.
Voire une tranche même d'EHPAD, des résidents qui payent 15 000 euros.
Hein, oui, tout à fait.
On voit le Neuilly, hein, c'est la réalité. Donc, effectivement, le budget qui est attribué à cette tarification d'hébergement, elle n'est pas pour payer les soignants, ou elle est vraiment pour ses actionnaires qui s'engraissent de dividendes et qui, à côté, il y a cet abandon auprès de ces personnes âgées, de ces salariés qui souffrent aussi parce qu'ils sont mal payés et qui sont pas du tout considérés.
Alors, on est bien d'accord. En région parisienne, c'est la seule région qui oblige même les petits-enfants à payer pour l'EHPAD de la personne âgée qui est dedans.
Donc, mais là, pour l'instant, par rapport au la loi qui est actuellement, c'est de dédouaner effectivement les frais aux petits enfants. Donc sur le 92, vous me dites que on est encore dans ce modèle de financement pour les petits enfants.
Oui.
C'est dramatique.
Et tout ça pour des actionnaires qui sont installés dans les paradis fiscaux. Je suis désolée.
Fait. Oui, mais complètement, parce que comme dans le 92, c'est le tarif d'hébergement le plus élevé de France. Donc
oui.
Effectivement, et l'un des départements le plus riche quand même de France.
Il a l'arrondissement de la Défense qui fait le quart du PIB de la France. Donc on aurait pu penser qu'on aurait pu avoir plus d'argent pour nos vieux.
Tout à fait. Il y a de l'argent et on sait où on doit les trouver, mais malheureusement, c'est pas du tout dans cette direction que le gouvernement va dans cette démarche-là.
Bon, est-ce que vous pouvez, sans trahir le secret professionnel, nous donner des cas de maltraitance au personnel soignant ? Je parle du personnel, je ne parle pas des personnes âgées. Ça, c'est couvert par le secret professionnel. Ça, je le sais. En tant qu'ancien auxiliaire de vie, je sais que c'est couvert. Mais la maltraitance institutionnelle envers les personnels soignants, ceux qui sont chargés de s'occuper de nos personnes âgées, il y a une maltraitance envers eux.
Mais bien sûr, il y a une grande maltraitance auprès des personnels, ça c'est évident. Déjà, je vous ai expliqué des situations où elles se retrouvent seules à une prise en charge qui a pas de sens. La prise en charge, elle peut même pas être faite parce que il y a pas très longtemps, j'avais une aide-soignante qui m'a appelée parce qu'elle me dit, Malika, je me retrouve, je suis tout seule avec 40 résidents. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai dû alerter la direction, mais la direction a mis du temps pour renforcer cette équipe parce que je suis intervenue. Vous imaginez la maltraitance qu'il y a que cette soignante doit subir déjà dans ses conditions de travail. Et en plus, dès qu'elle lève la tête un peu, cette soignante, et dès qu'elle revendique,
elle
prend la porte parce qu'elles sont sous des contrats précaires.
Oui.
Ou soit elles sont des CDI, donc on va leur trouver, on va les laisser tranquilles en espace de 3-4 semaines, on va leur trouver des griefs concernant leur mission de travail, et donc on va les sanctionner. Ou soit on les met un petit peu au placard et du coup elles s'en vont, elles quittent le navire et elles partent ailleurs, elles travaillent ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a ce turnover aussi dans ces établissements, parce qu'ils sont tellement maltraités que tout le monde s'en va. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de vacataires. Mais les vacataires, pourquoi? Parce que le personnel reste pas. Parce que le personnel est maltraité. Parce que le personnel est sous-payé. Parce que il y a pas de considération. Ce métier de soin, normalement, ça devrait être un bonheur pour le soignant. Parce que vous imaginez qu'on soigne. C'est magnifique parce qu'on apporte, du soin, c'est ce qu'on appelle le cœur. Mais oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle même plus de ça. On est vraiment dans une situation où on va dans les services. Il y a plus de sens de travail. Il y a plus d'intérêt. Il y a rien du tout. On a tout perdu. Et c'est bien dommage.
Alors, et pourtant, l'aide-soignante ou l'auxiliaire de vie qui s'occupe d'une personne âgée, elle est au bout d'une chaîne et elle doit normalement alerter le bout de la chaîne s'il y a un problème. Oui. Par exemple, de syndrome de glissement. De perte d'appétit, de chute, tout ça. Elle doit prévenir pour qu'on assiste mieux la personne. Donc si déjà elle n'est pas aidée dans son travail, comment voulez-vous qu'elle fasse son travail correctement et qu'elle aide la personne âgée?
Tout à fait, vous avez tout dit. Effectivement, les dérives aujourd'hui, les plaintes de famille, c'est par rapport à des situations justement dont vous évoquez, un syndrome de glissement, pas d'appétit. Donc ces soignantes, elles sont tellement prises par le travail, par la cadence infernale, elles ont même plus de sens de travail. Donc ces choses-là, elles passent et tout ça, aujourd'hui, on responsabilise ces soignants dès qu'il y a une faille et qu'une famille se plaint ou porte plainte, parce qu'il y a beaucoup de plaintes de famille. Aujourd'hui, la seule responsable, c'est la soignante. On ne va pas chercher derrière qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette situation est passée et qu'a porté une défaillance sur la prise en charge. Donc aujourd'hui, c'est comme ça. C'est la réalité du terrain et c'est bien dommage. Et malheureusement, on a tous les jours des plaintes de famille. Et moi, je peux dire aux familles, je vous assure que vraiment, c'est pas la responsabilité des soignants, c'est la responsabilité de l'État qui donne pas du tout des moyens aujourd'hui pour prendre en charge correctement nos personnes âgées. Et donc vraiment, je vous assure, on a besoin de soutien aujourd'hui, on a besoin des familles, on a besoin de la population, on a besoin vraiment de toute cette France pour aider ces soignants et aussi... quelque part aussi, c'est accompagner nos parents, nos grands-parents, et puis voilà, et puis demain, ce sera nous. Faut pas oublier, demain aussi, ce sera nous. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Donc, j'ai vraiment, c'est un appel solennel où je demande vraiment que les familles et que la population puissent nous aider et intervenir, et puis parler bien fort pour dire stop à ces EHPAD bashing et vraiment accompagner nos personnes âgées avec dignité.
Dernier exemple de maltraitance, le salaire. Est-ce que tu peux, Malika?
Je peux vous donner un cas concret, c'est très bien.
Oui, tout à fait. Ça, comme ça, ça clôturera.
D'accord. Oui, c'est vrai.
La liste des griefs.
C'est très bien, franchement, une très bonne question parce que je voudrais quand même
je
parler.
La connais en tant qu'auxiliaire de vie, c'est la grille de l'INSEE, c'est la plus basse.
C'est un peu en lien avec.
Les aides-soignants sont juste au-dessus.
C'est très bien. C'est vraiment, l'intervention, c'est lié avec ces auxiliaires de vie. Et aujourd'hui, dans les EHPAD, on retrouve une grande population de soignants, c'est les auxiliaires de vie et les AMP. Mmh. Et en 2015, on a fusionné ces deux métiers qu'on appelle aujourd'hui assistante éducative sociale.
Tout à fait.
Et ces personnels ont des missions d'aide-soignante dans les EHPAD, qui est même légiféré sur leur rôle. en tant que faisant fonction d'aide-soignante. Mais malheureusement, ces personnels, eh ben, elles sont sous-payées, elles sont dans un grade d'agent hospitalier qualifié, voilà, elles ne sont pas reconnues en grade B comme les aides-soignantes, donc leur salaire, il est complètement diminué par rapport aux aides-soignantes, en sachant qu'ils font le même métier, les mêmes fonctions.
Hein, notamment donner les médicaments.
Donner les médicaments,
c'est
tout
très
à fait
important.
Exactement, parce que on donne les médicaments dans les EHPAD, parce que c'est considéré comme un lieu de vie. Donc, c'est pour eux, c'est légal, mais bon, c'est fait des fois dans des, dans pas dans l'illégalité. Donc,
c'est une acrobatie.
Voilà, ça aussi, c'est un point.
Ouais.
Et le pire dans tout ça, c'est que moi, je viens d'apprendre et que c'est le Conseil d'État a confirmé que ces personnels, ces accompagnements éducatifs sociaux qui font le métier d'aide-soignante, eh ben, sont en catégorie sédentaire, c'est-à-dire qu'elles partiront à 64 ans, voire 60 ans, voire 70 ans, parce qu'elles ne sont pas considérées comme les aides-soignantes qui partiront beaucoup plus tôt à la retraite, en sachant que les conditions de travail et la pénibilité de travail, elles vont virer la même chose. Donc, je suis très inquiète pour ces professionnels-là pour l'avenir, voilà, de leur métier et comment elles vont se retrouver.
Alors,
si elles vont pouvoir vraiment...
Le taux horaire, on peut le dire, pour que nos auditeurs comprennent.
D'accord.
Qu'il y a une maltraitance aussi au niveau du salaire.
Bien sûr, bah, le taux horaire, bah, il est au SMIC, hein.
Voilà.
C'est clair, c'est tout,
voilà.
Au SMIC. Bah, voilà, il est au SMIC et puis voilà, il y a une grande différence. Hein. Je peux vous dire qu'il y a une différence de 400 à 500 euros par rapport à une aide-soignante. Hein.
Tout à fait.
Pour faire le même travail.
Oui. Pénibilité et burn-out à la clé.
Tout à fait.
Merci. Donc, nous allons faire une pause, Malika, et nous allons revenir pour expliquer aussi à nos auditeurs qu'il y a des solutions et qu'il faudrait qu'on les prenne en compte pour nos vieux.
Bourgeois, camarade, fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade, bourgeois, camarade, fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton petit complet veston et ta chemise blanche, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu roules en Ferrari ou en Lamborghini, tu roules des épaules, tu te crois super drôle, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, je sais ton père est patron, faut pas en faire un complexe, le jour de la révolution, on lui coupera que la tête, regarde-toi, ah, 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 regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, tu passes ton temps au drugstore sur les Champs-Élysées, tu te crois très très fort, t'es jamais qu'un miné, regarde-toi, ah, ah, ah. Regarde-toi, ah, ah, ah. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, rejoins les rangs de la pègre, tu prendras vraiment ton pied, ne sois plus une petite bête, nous sommes tous des défoncés, regarde-moi, ah, ah, ah. Regarde-moi, ah, ah, ah. Regarde-moi, ah, ah, ah. Regarde-moi, ah, ah, ah.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, aujourd'hui, en deuxième partie de notre émission sur la crise des EHPAD avec Malika Bellardi. Malika, nous avons passé une demi-heure à peu près à faire le constat de tout ce qui ne va pas dans le secteur. Donc maintenant, on va essayer de donner un peu d'espoir aux familles qui nous écoutent, aux auditeurs qui ont des personnes âgées dans les EHPAD ou qui vont avoir eux-mêmes un jour à y aller, parce que c'est notre commun, puisqu'on vieillit de plus en plus tard. Et donc, on vit de plus en plus tard, plutôt. Donc, Est-ce qu'il y a des solutions à proposer? Alors, la première solution.
Bon, déjà, c'est vrai qu'on va... En 2050, hein, je le répète encore une fois, on aura doublé les personnes en perte d'autonomie. Hein, et aujourd'hui, les solutions, c'est vraiment... l'enjeu, c'est vraiment de mettre des moyens financiers. Des moyens financiers qui vont permettre, hein, déjà, d'augmenter les effectifs. Parce qu'aujourd'hui, nous, la CGT, on demande 200 000 emplois dans les EHPAD. C'est un soignant pour un résident. Ce qu'on demande aussi, c'est vraiment des formations diplômantes, hein, avec une vraie qualification.
Oui.
Derrière aussi, on demande aussi un salaire décent, ce qui veut dire une rémunération qui répond vraiment aux qualifications pour tous les personnels.
Donc ainsi, au-dessus du SMIC.
Au-dessus du SMIC.
Largement.
Voilà. Donc, là, vraiment, c'est les trois points qui sont importants. Ensuite, on demande aussi de la considération. On demande la considération, on demande qu'on soit bien dans notre travail. Ben voilà, nous accompagner dans le cadre de la qualité de vie au travail, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un concept. Hein. Aujourd'hui, les établissements utilisent beaucoup la qualité de vie au travail, mais c'est juste
un
concept, c'est du marketing, comme vous dites, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Nous, on demande vraiment d'être bien. De quand on arrive au travail, qu'on soit bien, qu'on puisse s'occuper correctement des résidents, qu'on puisse répondre, hein, vraiment à nos missions dans le cadre du soins relationnels, dans le cadre des soins d'hygiène, dans le cadre vraiment de l'animation, aussi accompagnant les familles à leurs questions, aux attentes qu'ils attendent pour qu'on puisse prendre en charge correctement les résidents. Si on nous donnait tous ces moyens, ben ce serait magnifique. C'est ce qu'on demande. On demande des salaires, des effectifs, une qualité de travail, de la formation diplômante et pouvoir accompagner dignement nos résidents et apporter vraiment des missions de nos missions vraiment dans le soin et aussi accompagner les familles quand ils ont besoin, quand ils sont en questionnement, quand ils sont perdus.
Alors, si on met en place un soignant pour un résident, donc il faut vraiment mettre le cinquième pilier en route.
Tout à fait. Ben la prise en charge de la dépendance pour la perte d'autonomie au niveau de la sécurité sociale via nos cotisations sociales.
D'accord. Donc est-ce que ça viendrait pas aussi du fait qu'il faudrait peut-être arrêter de financiariser ce secteur et renationaliser nos EHPAD?
Ah ben complètement. Il faudrait que déjà tout ce secteur de privé lucratif, ben que ce soit un service public.
Voilà.
C'est sûr que, bon, évidemment, c'est ce que nous demandons depuis longtemps. Ça, c'est très important. Et puis arrêter, de prendre la personne âgée comme un moyen de financement et de remplir les caisses des actionnaires. Ça suffit. Nous, on veut vraiment un grand service public.
Bon, il y a aussi, je pense aussi aux chercheurs. On est dans la saison des remises des prix Nobel. Il y a Parkinson et Alzheimer qui sont les deux maladies qui sont vraiment répandues dans nos résidents. Je parle dans nos résidents parce que même si je fais autre chose, j'ai été auxiliaire de vie pour payer mes études. C'était les deux maladies les plus courantes qu'on avait à observer. Je veux dire. Pour la recherche, il faut accompagner les fondations qui font de la recherche, les chercheurs.
Bien sûr, mais cette maladie d'Alzheimer et Parkinson, bien sûr qu'on voudrait retrouver un remède, mais bon, la situation, bien sûr qu'on laisse les chercheurs faire leur travail et apporter, bien sûr, un moyen, justement, de guérir ces maladies. Mais aujourd'hui, la situation dans les EHPAD, justement, par rapport à la maladie d'Alzheimer, qui se répand, il y a beaucoup, qui est la prise en charge aussi, qui est très difficile à gérer parce que elle est, on ne nous donne pas les moyens. Donc, on a, par exemple, je peux vous donner un exemple. On a dans un secteur où on a 40 résidents sur une unité. Donc, et avec 4 soignants, des fois, voire 3, hein, voire 2 quand il n'y a personne.
Oui.
Donc, où c'est ingérable. Et puis, justement, la prise en charge sur la question de la maladie d'Alzheimer, vivement que les chercheurs puissent apporter une solution de guérison, parce que là, pour l'instant, on est bien dans la merde avec les moyens qu'on ne nous donne pas pour accompagner ces personnes qui sont dans des démences et qui ne permettent pas aux soignants de gérer comme il faut la prise en charge.
Alors, il y a des associations, il y a des mouvements politiques qui veulent taxer les ultra-riches, taxer les multinationales, taxer et que la charge fiscale ne retombe pas toujours sur les plus petits, les plus modestes, qui proportionnellement payent plus d'impôts que les très riches et les ultra-riches. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le secteur se mobilise et fasse une campagne pour exiger la renationalisation des EHPAD ?
Bah écoutez, nous, à la CGT, bah c'est ce qu'on demande, hein. On le demande, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le demander. Ça fait quand même des années qu'on demande la nationalisation des EHPAD, que ce soit du secteur, que ce soit un service public. Et effectivement, on aimerait bien que ces associations et ces partis politiques, qu'il y en a, où ils ont aussi la même démarche que la CGT, effectivement, puissent encore accentuer et justement fermer la porte à tout ce qui est secteur lucratif. Et qui nous amènerait vraiment dans un service public. Mais aujourd'hui, on n'y est pas, parce que quand vous regardez tous les services publics qui sont en train de disparaître, comme la poste, comme beaucoup de secteurs publics, donc je suis très inquiète aussi dans le secteur médico-social et aussi sanitaire, dans les hôpitaux aussi.
Alors, moi, je reviens à la renationalisation. Je veux dire, quand il a fallu nationaliser des entreprises privées dans les années 80, il y a eu une alliance politique qui s'est faite, les gens ont voté et on a obtenu la nationalisation de ces entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer aux Français et aux gens qui vivent en France que s'ils veulent continuer à voter, bon, après tout, chacun sait... leur expliquer que ils vont être les futurs habitants de ces EHPAD et que c'est maintenant qu'il faudrait obtenir qu'ils soient renationalisés et que c'est maintenant qu'il faut faire le cinquième pilier de la dépendance. Non, mais c'est maintenant parce que, je veux dire, 2050, c'est demain.
On est d'accord.
Mmh. Donc, et qu'il faut faire un accord. On vote pour vous. On vous donne les clés du pouvoir, mais en échange, vous renationalisez ce secteur et vous mettez de l'argent pour que les personnes âgées qui ont rebâti la France au sortir de la guerre, c'était une génération qui a tout reconstruit. Et on les met dans des conditions indignes de vie, c'est scandaleux.
Bien sûr.
Alors qu'on a toujours fonctionné avec un système de répartition. C'est-à-dire que les générations futures cotisaient pour... les générations actuelles cotisées pour les générations futures, et ainsi de suite. Donc, on est attaché au système de répartition pour les retraites. Donc, il faut continuer. Sinon, bientôt, avec les pistes qu'ils proposent dans la loi Grand Âge et tout le reste, c'est la privatisation de nos retraites et c'est la privatisation de ces EHPAD qui va continuer de plus belle.
Mais complètement, c'est surtout, oui, ça je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, on est vraiment dans cette direction et effectivement, le gouvernement, d'ailleurs le Premier ministre faisait un état des lieux des finances et responsabilité à les citoyens pour que justement on puisse sortir et c'est de nous monter justement les taxes, les impôts. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans cette direction. Donc le problème, c'est que oui, il faut qu'on se lève et qu'on puisse vraiment revenir sur vraiment des vraies cotisations parce qu'on doit payer nos cotisations sociales, mais que ce soit pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre de la perte d'autonomie. Ça, c'est primordial, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les perspectives du gouvernement concernant l'accompagnement de la perte d'autonomie, c'est surtout nous taxer, parce qu'on l'a bien dit, hein, la journée de solidarité, la contribution aussi des personnes retraitées, et aussi une assurance, faire marcher les assurances collectives pour payer la dépendance, et ben... je pense qu'on a encore des combats à mener pour justement arrêter tout ce processus et pouvoir se battre pour une grande loi du service public avec une prise en charge de la cinquième branche de l'autonomie via la sécurité sociale par nos cotisations sociales.
Alors, la cinquième branche, si on arrive à l'obtenir... Ah, je suis optimiste. Je refuse de perdre ce pourquoi je me bats. Si on arrive à l'obtenir, quelles seraient les proportions Est-ce qu'on commence par les salaires, les EHPAD, les résidents? Dans l'absolu, on a la cinquième branche. D'accord. Comment on répartit les dépenses, Malika?
Alors moi, je suis pas spécialiste des finances. Non, mais on est dans les solutions. Ben bien sûr qu'en travaillant déjà, si on augmente déjà les effectifs, déjà.
Et 200 000, hein, si on a les 200 000
personnes. Et si on augmente les salaires, donc nos cotisations, elles vont augmenter. Oui. Donc ça permettra aussi ces cotisations sociales de contribuer justement pour essayer, par exemple, de financer l'autonomie. Ça, oui, on peut y arriver. Mais il n'y a pas que ça, il y a ces actionnaires. C'est une contribution de tous ces actionnaires ils devraient payer pour justement, et pas sur le dos des personnes, d'une population qui est en précarisation déjà. Vous regardez l'inflation du pouvoir d'achat, il est énorme. Les gens n'y arrivent pas. Donc si encore on va nous taxer de l'argent, que ce soit dans nos impôts, dans la journée de solidarité et dans les assurances de prévoyance, excusez-moi, les assurances pour la dépendance. Donc là, ça va être vraiment, on va pas se mettre d'accord et on va continuer à se battre pour avoir un grand service public.
Moi, je veux revenir sur le cinquième pilier. De toute façon, il faudra bien qu'on le mette en place. Mmh. À partir du moment où la démographie est contre nous. Mmh. Tous les démographes, et moi j'ai fait des études de démographie, m'expliquaient que en 1964, le rapport s'inversait. Il y avait plus d'animaux domestiques que d'enfants dans les foyers. Donc c'est évident que la courbe allait s'inverser et que les naissances allaient être moindres que les personnes qui vieillissaient. Donc on en est là. Pourquoi on nous a soi-disant imposé ces 2 ans de supplémentaires de cette réforme des retraites indigne, alors qu'on aurait pu aller taxer l'argent dans les paradis fiscaux, on aurait pu taxer les ultra-riches, on aurait pu taxer les multinationales, et on n'aurait pas eu besoin de nous imposer cette loi, qui d'ailleurs, on est toujours dans le combat pour la faire abroger, et ça reste un combat de...
On va continuer.
On va continuer, il n'y a pas de souci. Donc, on savait très bien qu'à un moment donné, il n'y aurait pas assez de personnes pour faire pour payer les montants, pour faire fonctionner le cinquième pilier. Donc il fallait abonder au moment où on avait de l'argent. Donc maintenant, on sait qu'il y a de l'argent dans les paradis fiscaux. Le montant dans les paradis fiscaux au niveau de l'Europe, c'est la somme des déficits. Si on va taxer cet argent, il n'y a pas de déficit, donc il n'y a pas de politique de rigueur à justifier contre les populations. Donc, si on a le cinquième pilier, on peut, à ce moment-là, envisager sans problème de nationaliser les EHPAD qui restent encore privés. On payera tant pis aux actionnaires leur part. C'est ça, c'est un crève-cœur, mais bon, nationaliser veut dire quelque part racheter à des personnes privées. Mais on est bien d'accord qu'il faudra faire à la fois tout de suite un effort sur les salaires, un effort sur le personnel et un effort sur la prise en charge des résidents. C'est ça que c'est les familles, si elles se plaignent, si elles portent plainte, si elles sont après le je sais, puisque moi j'ai eu des familles qui étaient après moi à longueur de journée, elles trouvaient qu'on n'en faisait pas assez. Et ce que je comprenais, et je leur disais, mais on a que 8 heures de travail, ça fait 10 heures qu'on est là, on n'en peut plus, on va rentrer, et désolé, on peut pas faire plus. Et les familles étaient abasourdies. Elles étaient indignées et je disais, mais plutôt de vous en prendre aux auxiliaires de vie ou aux aides-soignants, prenez-vous au directeur, lequel directeur était barricadé dans son bureau et ne recevait personne. Bon, soit dit en passant. Je veux dire, quand ça arrivera, est-ce qu'il ne faudrait pas considérer aussi que le capitalisme, c'est un problème? Et qu'il faut, au-delà de la nationalisation de nos EHPAD, mmh. au-delà du cinquième pilier, au-delà de tout ceci, il faut un changement de société profond.
C'est plus que profond, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, les paradis fiscaux, hein, et ben, tout cet argent-là qu'on pourrait récupérer, hein, effectivement, par rapport au nombre d'effectifs, au nombre des salaires, parce que l'augmentation des salaires permettrait, comme je vous ai expliqué, d'augmenter les cotisations sociales.
Oui.
Donc tout ça, et les impôts, parce que
oui,
bien sûr que
tout
aussi,
à fait.
Donc toutes ces solutions vont permettre voilà, de financer la dépendance. Mais moi, je pense qu'il faut aller chercher ça chez les actionnaires. Vous vous rendez compte, c'est...
Il faut les taxer.
D'accord, on est d'accord. Moi, je travaille, je veux une augmentation de salaire, je paye mes cotisations sociales, je ne les revendique pas et ça contribue, bien sûr, à financer tout ce qui est social, hein, parce qu'il n'y a pas que l'autonomie. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais moi, je veux en priorité qu'on aille chercher de l'argent chez les actionnaires, parce que c'est là où il y a la source et qui permettrait aujourd'hui de pouvoir assurer la perte d'autonomie pour nos futurs, pour les aînés qui sont là actuellement et pour nos futurs aînés qui seront en perte d'autonomie dans les années à venir.
Donc en fait, si on comprend bien, au-delà d'un combat et nos vieux méritent mieux, c'est un combat pour la société, c'est un combat pour la dignité. C'est un combat pour la répartition et c'est un combat contre le capitalisme. On est bien d'accord.
On est d'accord.
Bien. Alors, est-ce qu'on peut lancer un petit coucou et les encouragements au personnel qui est en grève ? Alors, je disais la Cerise, parce que je les connais.
Alors, effectivement, nous avons eu là dernièrement dans les Hauts-de-Seine plusieurs EHPAD. D'ailleurs, il y en a d'autres. Il y en a une qui est notre EHPAD.
Sur toute la France, il y a des EHPAD qui se sont mis en grève.
Sur toute la France, énormément d'EHPAD et
on les encourage.
Un cri d'alarme. Et nous, on les encourage. Bien sûr qu'on les encourage et on se battra. Et moi, quand je vous ai dit, vous savez bien, je dis levez-vous, levez-vous, parce que le problème, c'est que si on se mobilise pas, si vraiment il n'y a pas vraiment ces luttes qui se mettent en place, eh ben, on n'obtiendra rien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont pas compris, ce gouvernement, que attendre leurs mesures qui sont insuffisantes et puis souffrir dans les EHPAD, eh ben non. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Il faut se battre, il faut se mobiliser, on revendique et c'est tout à fait normal. Et derrière, surtout mes collègues, on a une prise en charge chez nos aînés parce que nous, on aime soigner, on aime nos personnes âgées. Si on travaille dans ce secteur, c'est vraiment par choix, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, parce qu'il y a d'autres travails ailleurs. On peut travailler dans un supermarché, on peut travailler en tant qu'administratif. Moi, personnellement, si j'ai choisi ce métier vraiment du grand âge, c'est vraiment parce que c'est ma volonté, parce que j'avais envie. Et vraiment, c'est vraiment parce que j'avais envie d'accompagner ces personnes âgées. Et je sais qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers de soignantes qui sont comme moi, qui aiment les personnes âgées, qui aiment soigner. Mais aujourd'hui, je demande à ce gouvernement vraiment de donner des moyens, pas que pour nous, mais aussi pour nos personnes âgées, mais aussi les salaires et l'égalité, hein, parce que il faut pas oublier que 90% des femmes travaillent dans les EHPAD et s'il y a quand même une discrimination à ce niveau-là, parce qu'on est toujours quand même maltraitées et parce qu'on est des femmes. Donc moi, je considère que le gouvernement doit vraiment apporter des grandes finances et apporter vraiment une grande loi grand âge, comme il l'a promis Emmanuel Macron en 2018. Ben, on l'attend et il faudrait qu'il s'engage, il s'est engagé à le faire. Donc il faut qu'il respecte ce qu'il a dit, voilà, parce que la population et toute cette société française l'a entendu lors de ses allocutions concernant les personnes âgées.
Oui, et l'ont cru.
Oui,
hélas.
Bon. Et un grand, moi je soutiens mes collègues, je veux dire mes collègues de l'EHPAD de la Chenée. On se retrouve demain à 9h30. Hein. On est en mobilisation. On a été, et malheureusement, beaucoup de soignants ont été assignés, ce qui veut dire qu'il ne leur permet pas de faire la grève parce que pour effectuer effectivement.
La continuité du service.
La continuité du service. Donc, franchement, on ne va pas, on ne lâche rien, on continue. Et demain, vraiment, et après, les jours qui suivent, eh ben toujours, on sera toujours dans la rue à revendiquer jusqu'à qu'on obtienne nos revendications.
Alors, donc, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutaient que vous êtes dans l'émission La Rage dedans, la deuxième émission du groupe Louis Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Notre invitée, c'était Malika Bellardi, aide-soignante et syndicaliste. Nous avons parlé des EHPAD. Je fais un dernier coucou à tous ceux qui sont en grève. Continuez, les familles, les résidents et surtout les futurs résidents que nous sommes de votre côté. Vous avez raison. Alors, je remercie Jean-Michel pour la technique, mon fidèle technicien. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci beaucoup, au revoir.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil. Tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle. Tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus bas? Tombé du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel. Tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère sous mon regard. Encore et toujours.
rage.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, je vis la fête. Le froid, la pluie, mon petit du...
J'étais l'homme abstrait à cheval sur Neptune, night and day, night and day. Moi, noctambule affreux, vivant à bout portant, night and day, night and day. Des biologistes dans les bars faisaient fortune. À mettre du Pernod dans les fleuves de sang, night and day, night and day. Ça tape, ça tape, ça tape, ça crie, ça crie, ça crie, ça tape, ça crie, ça gueule, et puis ça rotative. Et l'encre se déloque à la gueule des gens. Le sperme des nouvelles se met du noir aux yeux. Des nouvelles sans sas et super. Et mon cul a vous donné l'idée de retourner vers les oiseaux. Night and day. Night and day. C'est des vagins et ne savait pas l'heure. Night and day, night and day. J'avais des putains lasses au bout de mon charnier. Night and day, night and day. Je tricotais des kilomètres à 100 à l'heure. Ça me fera des pulpes énaves à mi-vernet. Night and day, night and day. Ça tape, ça tape, ça tape, ça crie, ça crie, ça crie. Ça tape, ça crie, ça gueule, et puis ça rotative. Et l'encre sèche vite dans les pattes des gens, et le sang des nouvelles a rougi dans leurs mains. Des nouvelles à la con, et puis dingue, et mon cul a vous donné une envie de vous brancher en quatrième. Night and day, night and day, night. Je cassais les réveils, les montres, les horloges. Night and day, night and day. Et des femmes gobaient les œufs de leurs amants. Night and day, night and day. L'océan de ton cul défait. Dans ma loge, night.
toujours et tu as 18 ans. Naïtende, naïtende.
Ça tape, ça tape, ça tape. Ça crie, ça crie, ça crie. Ça tape, ça crie, ça gueule.
Et puis ça rotative. Et l'encre fait aux gens des souvenirs ancrés. Et les nouvelles jouent aux quatre coins du monde. Des nouvelles à la clan, des nouvelles du monde, à vous donner l'envie de dégueuler la quadrature. Night and day. Night and day.
Radio Libertaire 89.4.
Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadieri, apri un po' la finestra, una spinta ai pinelli.